Chapitre 14. Elle était sortie radieuse de cet entretien et toute la journée avait été un enchantement pour elle. Le travail dans le jardin à arroser les primevères et les tulipes, à enlever les fleurs passées des ravenelles, à attacher les pousses de la glycine, le goûter dans la salle de verdure, le bouquet qu'Ernest lui avait cueilli et qu'ils avaient fait ensemble, le retour pendant lequel il les avait accompagnés jusqu'à la place d'Ancourt, comme s'il ne pouvait pas se séparer d'elle, ses regards à la dérobée, la façon dont il écoutait, la musique de sa voix, le charme de ses paroles, la douceur pénétrante de son serrement de main. Mais ça avait été surtout quand elle s'était trouvée seule qu'elle avait goûté tout le charme de cet enchantement, se rappelant ses paroles, se les répétant. Comme elles étaient douces, ces paroles, pour qui savait les comprendre? Et elle n'était pas assez enfant pour ne pas les avoir comprises. Enfant pour entendre, oui, mais non pour comprendre. Vous êtes une enfant charmante, toute pleine d'ingénuité et d'innocence, et ce serait les ternir que d'avoir pour vous d'autres yeux que ceux d'une honnête et pure admiration. Admiration. Il avait dit admiration. C'était de l'admiration qu'il avait pour elle. Un jour viendra où l'on pourra s'occuper de vous, et il est proche. Et il est proche. Et il est proche. Ne jugez pas les sentiments que vous inspirez par ce qu'on vous montre. Attendez. Comme tout cela était clair maintenant, comme elle comprenait, elle n'était pas laide puisqu'il admirait. Et s'il ne parlait pas, c'était parce qu'elle devait attendre. Et oui, elle attendrait, aussi longtemps qu'il voudrait. Que lui importait maintenant qu'elle savait? Dans sa joie, elle n'avait qu'un chagrin, un remords. Comment avait-elle pu l'accuser? Comme cela, mieux que tout, prouvait bien qu'elle n'était qu'une enfant, une ignorante, ainsi qu'il le disait, niaise et maladroite. Elle n'avait pas compris, elle n'avait pas deviné. Quelle sotte elle était, et comme il fallait qu'il l'aimât pour ne pas lui en vouloir de sa sottise et de sa cruauté. Car c'était bien de la cruauté bête, de lui avoir parlé du marquis d'Arlanzone. Comme il avait dû souffrir! N'aurait-elle pas dû lui demander pardon de sa maladresse? Mais non, il était si bon, si généreux, si indulgent, qu'il ne se fâchait jamais. En pensant qu'il avait dû souffrir de cette confidence à propos du marquis, elle ne se trompait pas. Tout était possible avec un père comme M. de Mussidan et des frères comme Sébastien et Frédéric, même l'impossible. Qui pouvait savoir quelles idées germaient dans ses cervelles hantées par les visions de la grandeur et de la fortune? Était-il seulement capable de voir le marquis tel qu'il était, avec ses ridicules, sa réputation équivoque et son âge? Dans leurs hallucinations, n'était-il pas plutôt gens à ne voir que son titre et sa richesse, sans s'inquiéter de la façon dont il les avait gagnés? Heureusement, la possibilité de ce mariage ne s'était pas présentée à son esprit quand Geneviève lui avait dit que le marquis s'occupait d'elle, car malgré la loi qu'il s'était imposée de ne pas parler de son amour, il n'aurait pas pu se contenir. C'était l'incrédulité plus que la volonté qui lui avait fermé les lèvres. Un pareil crime lui avait paru impossible. Et si maintenant il était obligé de l'admettre, il ne devait pas regretter son silence. Si ingénue, si innocente que fût Geneviève, elle n'avait pas pu ne pas le comprendre. Et, loyale et honnête comme elle l'était, elle ne pouvait pas ne pas lui savoir gré de sa réserve. Si encore il avait pu s'ouvrir à Madame de Mussidan. Mais dans la situation difficile où il se trouvait, comment parler mariage? Il lui faudrait une bonne chance, un coup décisif qui le tira de son obscurité. Et justement, tout ce qu'il avait en train restait accroché pour une cause ou pour une autre, avec ses remises successives, ses lenteurs désespérantes qui se produisent si souvent au théâtre. Une de ses pièces, celle sur laquelle il comptait le plus, avait même été mise en répétition. Puis, à ce moment, la direction avait changé de main et le nouveau directeur lui avait demandé de refaire entièrement sa pièce. Elle était en quatre actes qui devaient se jouer dans un même salon et l'action se passait de nos jours. Le nouveau directeur voulait qu'il la mît en 8 ou 10 tableaux et qu'il reportât l'action au 18e siècle, car n'ayant pas un sou à lui dans son affaire et opérant avec l'argent de ses actionnaires, Il tenait à ne jouer que des pièces qu'il pouvait monter luxueusement, de manière à grossir autant que possible les remises de 20% que les fournisseurs lui consentaient sur la mise en scène. Quelle dépense faire avec une pièce en habit noir qui se passe dans un salon ? Et comme Faré n'avait pas encore trouvé le moyen de faire ce changement, on ne jouait pas sa pièce. D'ailleurs, de quel secours pouvait-elle lui être, la pauvre Madame de Mussidan, si douce, si effacée, si modeste, dans une lutte contre Monsieur de Mussidan, si férocement personnelle, et contre Sébastien et Frédéric, si bien convaincus que leur petite sœur n'était dans ce monde que pour qu'ils puissent l'exploiter. Comme il réfléchissait ainsi dans cette attente inquiète, il avait justement reçu à son journal la visite de Frédéric. Il était généralement assez raide avec lui, le vicomte Frédéric de Mussidan. Au moins, il gardait ses distances. Mais ce jour-là, il se montra exceptionnellement affable et aimable. « Je viens vous demander un service, cher ami. » Faré avait une phrase, toujours la même, avec les Mussidan. « Je suis tout à vous. » Il la répéta sans penser qu'il avait dite 100 fois déjà. « Nous sommes à la veille, mon frère et moi, d'ouvrir un casino sur la frontière d'Espagne, une affaire splendide, une fortune. Nous avons une partie du capital qui nous est nécessaire. Mais nous n'avons pas tout, car nous voulons commencer superbement. Je vous montrerai les plans. Vous verrez, c'est tout à fait nouveau. Nous enfonçons Monte-Carlo. Seulement, nous avons besoin de compléter notre capital, et c'est là que votre intervention peut nous être très utile. » Il ouvrit son veston et tira de sa poche un papier plié en 4. « Voici une note succincte que je vous ai préparée. Lisez-la et vous y trouverez tous les renseignements relatifs à notre affaire. » Il savait être aimable lorsqu'il jugeait cela bon pour ses intérêts. Il ajouta « Et aussi, je l'espère, les éléments d'un de ces charmants articles si pleins d'esprit et d'élégance. » Faré l'interrompit en riant. « Je suis tout à vous. » Sur ce mot, Frédéric se leva pour se retirer. Cependant, il ne prit point encore la porte. « Ce serait vraiment manquer de confiance envers vous, cher ami, que de ne pas vous dire quels sont mes moyens d'action en Espagne. Nous comptons sur le marquis d'Arlanzón, qui a conservé à Madrid une très grande influence. » Ce nom fut un éclair pour Faré. Où donc avait-il l'esprit ? « Comment le marquis d'Arlanzón s'occupe-t-il d'une maison de jeu ? » demanda-t-il. Il me semble que sa fortune le met en dehors de ces sortes d'affaires. Ce ne sera pas par spéculation que le marquis nous soutiendra. Ah ! Effaré eut un serrement de cœur. Mon cher ami, continua Frédéric, vous avez des relations trop affectueuses avec ma famille, mon père et ma petite sœur, pour que je ne vous dise pas, mais tout en confidence, ce qui se prépare. Faré n'était pas pris à l'improviste. Cependant, il sentit que s'il disait un mot, il allait se trahir. Il tâcha de prendre un visage impassible. Geneviève a fait une impression très vive sur le marquis. Alors, en attendant le moment où elle pourra se marier, vous comprenez, nous profitons de la situation. Le marquis n'a rien à nous refuser. Nous comptons sur vous, hein, cher ami ? Je suis tout à vous.